Bonjour à tous, à nos chers auditeurs et à nos invités du jour. Bienvenue dans votre émission Techno Blabla. Je suis très heureux de vous retrouver et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité. L'innovation technologique, ses causes et ses conséquences. En effet, comme vous nous l'aviez demandé lors du sondage de fin de la dernière émission, nous traiterons ce sujet avec des invités de qualité. Sans plus attendre, voici ceux qui animeront l'émission du jour. Tout d'abord, à nos côtés, aujourd'hui, Didier Robert. Bonjour Didier.
Bonjour monsieur.
Enseignant-chercheur qui a vu son domaine de l'informatique évoluer, permettant ainsi d'énormes progrès et de qualité de travail, il a également écrit un ouvrage intitulé « La technologie, notre amie », qui nous décrit comment ces innovations nous aident-elles au quotidien à effectuer ce qui serait long et fastidieux pour l'homme de faire. Lui qui a connu le passage de l'époque sans A avec. Également avec nous, Patrick Seb. Bonjour monsieur Seb.
Bonjour.
Maire de Plougastel, passé par les plus grands instituts politiques de la capitale, il a connu cette vie politique où tout est désormais informatisé. Aujourd'hui, il milite pour une vie moins connectée et souhaite, à travers sa politique, faire évoluer les mœurs, du moins de sa ville, pour éviter que les générations futures ne soient totalement déconnectées de la réalité. Lui qui considère que toutes ces innovations technologiques sont un frein aux relations sociales et une catastrophe environnementale sans précédent. Selon lui, l'État devrait se concentrer sur des problèmes plus importants comme la hausse de température de la planète que d'investir des sommes faramineuses dans des équipements high-tech. René Zer, également avec nous, qui nous fait le plaisir d'être à nos côtés.
Bonjour.
Ex-opérateur machiniste chez Fiat, chez qui il a principalement travaillé en tôlerie pour le modèle Multipla. Il a subi un événement tragique qui vient stopper sa carrière. Effectivement, il fut mutilé au bras sur une des machines de l'entreprise qui lui fait perdre l'utilité de son bras droit. Aidé quotidiennement par des innovations technologiques qui lui rendent la vie plus supportable, il déclare, je cite, « Ma vie serait un cauchemar sans tout cela ». Face à lui, Alain Hadeux, bonjour monsieur, industriel gérant la société des pièces auto, il se dit déçu des investissements sur la nouvelle machine à la pointe de la technologie qui, selon lui, à cause de ces machines, son chiffre d'affaires a diminué avec un chiffre d'affaires de 700 000 euros l'année précédente. Entrepreneur à succès, il explique les défauts des innovations technologiques lors d'une conférence des entrepreneurs à Grenoble, expliquant ainsi par exemple que l'automatisation des machines diminue l'emploi. Cela étant dit, de plus en plus d'auditeurs nous font part de leurs avis, certains anxieux et inquiets, comme d'autres très emballés par le sujet à la limite de la technophilie. Ainsi, nous pouvons nous demander jusqu'où iront ces innovations, qui sont les partisans et qui partiront en croisade contre ces innovations. Quel enseignement pouvons-nous en tirer? Sur un plan social, est-ce que cela reflète les inégalités tant à l'échelle locale qu'à l'échelle mondiale? Ainsi, nous tenterons de répondre à ces questions grâce à nos invités du jour qui nous partageront leurs points de vue, leurs expériences et leurs histoires. Nous pourrons suivre les réactions de nos auditeurs grâce au fil Twitter avec le hashtag TechnoFab44 et aux appels téléphoniques au standard. Je tiens à remercier particulièrement la régie et toute l'équipe technique sans qui cela ne serait pas possible. Tout d'abord, je voudrais commencer par définir qu'est-ce que l'innovation. On entend toujours parler de l'innovation, mais en termes simples, pour vous, qu'est-ce que l'innovation technologique? Et qu'est-ce que vous en pensez? Nous est-elle bénéfique ou préjudiciable?
Donc pour moi, déjà, l'innovation, c'est une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de faire. D'accord. Qui nous permet de progresser dans l'industrie et d'améliorer notre qualité de vie.
D'accord. Monsieur Zer, qu'en pensez-vous?
Donc, pour moi, l'innovation... Ça permet de franchir certaines limites qu'on pensait jusque-là impossibles. Par exemple, j'ai récupéré l'usage de mon bras grâce à l'innovation. Et on surpasse toujours ces limites. On améliore le monde et on rend toujours la vie plus facile.
D'accord, je vois que vous avez été très touché par cet événement et que ces innovations vous ont redonné la joie de vivre.
Oui.
Alors, monsieur Hadeux, qu'en pensez-vous?
L'innovation permet d'optimiser l'homme, de rendre plus confort, comme monsieur Zer, qui a réussi à retrouver son bras. Mais malheureusement, même si on crée des nouvelles choses, il y a toujours des désavantages et des inconvénients. On en reparlera plus tard.
D'accord.
Donc déjà, pour moi, je voudrais vous remercier de pouvoir participer à ce débat qui m'a l'air tout à fait passionnant.
Mais vous êtes le bienvenu, monsieur.
Pour moi, l'innovation est un moyen de faire évoluer l'homme. Sauf que de nos jours, cette évolution a, comme qui dirait, stagné. Et pour moi, la plupart de cette évolution commence à avoir des défauts, à créer des problèmes qui permettront de causer une perte éventuelle de tout ce qu'on a pu gagner par notre histoire.
D'accord. Ah, je vois bien que deux avis divergent en fonction de vos représentations de l'innovation technologique. Mais je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des expériences, des faits, des histoires qui vous permettent d'argumenter les idées que vous défendez et le point de vue que vous avez par rapport à cela? Par exemple, que pouvez-vous nous en dire, monsieur Adeux?
Tout d'abord, grâce avec les nouvelles machines qui sont toujours optimisées pour être toujours plus rentables, etc. Mais forcément, rentabilité, toutes les personnes n'ont pas forcément les formations pour pouvoir diriger ces machines. Donc, par la suite, il y a des emplois, il y a des personnes qui vont être licenciées, malheureusement. Et du coup, c'est bien dommage que pas mal de personnes, du coup, perdent leur emploi à cause de l'innovation, alors que normalement, l'innovation permet d'avoir plus de confort et que ça permet d'évoluer, que des entreprises puissent augmenter leur chiffre d'affaires et du coup, justement, avoir des emplois en plus plutôt que licencier certaines personnes.
D'accord, donc si je résume, le réel problème, c'est la qualification du personnel qui n'est pas assez qualifié pour maîtriser ces machines.
Malheureusement, on est en pleine période de transition. C'est qu'on demande à des personnes d'avoir certaines formations, mais ils ne l'ont pas encore. C'est des personnes, des fois, qui ont 30 ou 40 ans. Les études, ça reste quand même un peu loin pour eux. Et souvent, ces personnes-là, ils n'ont pas tellement envie de refaire des formations, retourner à faire des études, à retravailler. Eux, c'était souvent leur objectif d'être, pas plus d'eux, d'être juste technicien. Et ils n'ont pas forcément envie d'évoluer un peu plus pour avoir plus de contraintes, des fois travailler le samedi ou faire plus de 40 heures par semaine.
Très bien, très bien.
Ce serait possible de rebondir sur ce que vient de dire
M.
Adeux.
Oui, vous pouvez, M. Zer.
Donc,
nous sommes tous oui.
J'étais dans le cas que Monsieur Adeux nous a présenté. Mon entreprise m'a proposé d'évoluer en proposant une formation entièrement financée. Mais j'étais freiné par le fait de reprendre mes études. Mais aujourd'hui, je le regrette, j'en ai perdu l'usage de mon bras. Ils ont voulu renouveler le parc machine, car les machines n'étaient plus aux normes de sécurité actuelles, et ils proposaient des formations. Et en ayant refusé, j'ai perdu une partie de moi-même.
D'accord, je vois que ça vous touche vraiment ceci. Donc, monsieur Robert, oui. Vous qui êtes chercheur, est-ce que vous pouvez nous décrire dans votre environnement de travail, oui. Vous avez beaucoup de personnes, vous voyez beaucoup de personnes dans leurs différentes activités, mais pensez-vous qu'il est réellement nécessaire d'avoir une formation peut-être qui est longue et difficile pour pouvoir utiliser et manier ces machines?
Je ne pense pas qu'il y a besoin d'une extrêmement importante formation pour pouvoir évoluer et manipuler des machines. Si les entrepreneurs étaient capables de mettre à disposition à leurs employés ne serait-ce que des petites formations, une journée par semaine suffirait pour qu'au bout de quelques mois, ils puissent être aptes à manipuler des machines par lesquelles ils seraient remplacés par le futur.
On essaye de prendre ces emplois-là, mais par contre, ces machines elles coûtent extrêmement cher. Du coup, il faut investir, il faut avoir de l'argent. Et une petite entreprise comme moi qui emploie à peine 120 personnes, on n'a pas forcément les ressources, les finances pour pouvoir acheter toutes ces machines-là. Donc, toutes les personnes et toutes les grosses entreprises qui innovent avec ces grosses machines, forcément, ils sont obligés de passer par là.
Et je vais ajouter aussi à propos de monsieur Adeux. Qui en permet, c'est que aussi les formations, car même s'il y a eu des réformes que nous, le gouvernement avait fait, il reste encore minimal, car les entreprises doivent toujours avoir un apport pour pouvoir toujours que leurs employés évoluent pour qu'ils suivent l'innovation. Sauf que le problème, comme les petites entreprises ne peuvent pas suivre ce moyen, donc les grosses entreprises commencent à gagner des parts sur les petites entreprises qui commencent à plus en plus disparaître dû à la mondialisation, dû aussi aux nouvelles technologies, car en effet, les télécommunications qui a permis à faire la mondialisation.
S'il vous plaît, monsieur Seb, nous nous éloignons du sujet, nous étions centrés sur la formation
qualification. Ce qui me permet de dire que la mondialisation permet des formations qui sont pour les petites entreprises commencent à disparaître, donc des emplois disparaissent dû à cette innovation, car plus en plus on crée l'innovation en créant de nouvelles machines qui vont coûter cher, qui sont aux normes, parce qu'on évolue toujours les normes pour qu'elles soient plus écologiques, plus adapté à certaines personnes, qui va permettre que cette des entreprises qui ne sont plus aux normes doivent disparaître, tout simplement disparaître.
D'accord, d'accord. Donc si je comprends bien, vous vous opposez à toutes ces formes d'innovation, par exemple dans le milieu industriel. Mais nous qui sommes quasiment dépendants de ces innovations technologiques, pensez-vous qu'on peut vivre sans ces évolutions, sans ces innovations? Ça serait comme un retour à l'âge de pierre, si je puisse me le permettre.
Ah bah, si vous dites que les années 1900 sont l'âge de pierre, je comprends que votre point de vue est pour. Mais moi qui
ai... Je ne défends aucun point de vue, je suis oui de tous les autres points de vue.
Ce qui est pour moi une chose évidente, c'est que... Pendant, on a pu évoluer, l'innovation a pu évoluer à un certain, comme les droits, on a pu avoir des travails, le travail qui était le forgeronnerie, la forgeronnerie ou la chaudronnerie que nos concitoyens, nos...
Restons sur le sujet. Par exemple, je voudrais demander l'avis de Monsieur Zer, lui qui a été, qui a travaillé en tant qu'opérateur machiniste. A-t-il connu ces innovations technologiques? Et si oui, est-ce qu'elles ont été bénéfiques ou préjudiciables pour l'entreprise dans laquelle il a travaillé?
Justement, j'allais y venir. Monsieur Seb nous a parlé, nous a dit que pour lui, à l'an 900, on n'était pas à l'âge de pierre. Sauf que durant ces années, si j'avais perdu mon bras, j'aurais fini à la rue. Actuellement, grâce à l'innovation, j'ai pu retrouver un travail. J'aurais pu reprendre une vie normale. Car certes, cet accident m'a traumatisé. Et j'ai pu justement, suite à l'innovation, retrouver ma vie, refaire des tâches qui étaient pourtant très simples. J'ai même pu retravailler, alors que pour moi, ces choses-là n'auraient jamais été possibles il y a ne serait-ce que 10 ans. D'accord. C'est pour ça que pour moi, il faut toujours innover. Et il faudrait aussi que les gouvernements puissent aider les entreprises comme celle de Monsieur A2 à justement financer ces formations et à renouveler leur parc outillage pour éviter que des accidents comme celui que j'ai subi arrive à certaines personnes.
D'accord, donc si vous pouvez réagir sur cela, monsieur A2, donc on comprend bien que monsieur Zer défend l'idée que les innovations technologiques permettent de protéger leurs opérateurs.
Ils permettent forcément de protéger, dû à toutes les normes de sécurité. Donc forcément, s'il y a eu ces normes de sécurité, c'est que malheureusement, des personnes comme monsieur Zer a eu un accident qui est des fois malheureux, par exemple la perte d'un bras. Et le problème, c'est qu'avec l'innovation, c'est bien, ça permet d'optimiser, ça permet d'être toujours plus rentable. Sauf que sur certains domaines, il y a des limites à l'innovation. À force de toujours plus créer, commence à avoir aussi un impact écologique qui reste important. Et après, des fois, sur certaines innovations, dans certains domaines, l'innovation, elle est mal gérée ou comment dire... Elle est utilisée par des personnes des fois mal intentionnées. D'accord. Genre si on prend l'exemple d'une imprimante 3D aux États-Unis, là où avec le Second Amendment, il y a une loi qui permet d'avoir une arme chez lui. Sauf que cette arme, elle est référencée, elle a un nom, cette arme est à cette personne-là. Mais avec l'imprimante 3D, on arrive à créer nous-mêmes nos propres armes et qui peuvent des fois blesser très gravement certaines personnes.
D'accord. Je me permets de rajouter une petite chose. Vous avez parlé des imprimantes 3D, mais vous voyez que le côté négatif des imprimantes 3D, vous parlez de création d'armes, sauf qu'en ce moment, il y a des lois qui sont faites dans le monde pour interdire la création de sites sur lesquels des armes seraient faites par imprimantes 3D et téléchargeables facilement. Donc c'est pour protéger un peu le monde entier. Il y a des réformes qui ont été faites, on n'a pas laissé ça de côté. Et en plus, en ce moment, le projet d'imprimante 3D, il augmente de façon exponentielle parce que on a vu avec Monsieur Furet, par exemple, l'opération Batiprime 3D, enfin l'association Batiprime 3D, qui permet de fabriquer des maisons partout en France, qui ont permis d'abriter des personnes un peu plus pauvres, des réfugiés, et ça nous permet de créer, de donner accès à des choses facilement. Sans besoin de temps, enfin d'énormément de temps, parce qu'en construisant une maison en imprimante 3D, ça peut prendre qu'une journée, alors qu'avec des moyens normaux, ça coûterait beaucoup plus cher. Il y a des hauts débats, mais voilà.
D'accord. Donc si je reviens sur le début de vos propos, en général, vous qualifiez que ces innovations technologiques sont en quelque sorte un danger.
Au final, pas dans tous les domaines. Il y a des domaines où du coup, ça assure plus de confort, plus de sécurité, etc.
Pour avoir un exemple de quelques domaines, par exemple, qui ne sont pas très,
bah après,
pas très
fois,
sécurisés.
Pas très sécurisés.
Comme vous l'avez dit.
Bah, du coup, bah, l'imprimante 3D, les armes.
D'accord.
Après, bah, tout ce qui est au niveau de l'environnement. Dès qu'on essaye de recycler certains objets, bah, des fois, juste le fait de les extraire,
d'accord.
Bah, du coup, ça rend l'environnement nocif. Et après, avec les voitures, les particules fines, etc., bah, du coup, ça reste dangereux pour l'homme parce que ça impacte directement sa santé aussi.
D'accord.
Ce n'est pas forcément la dangerosité brute ou comme on peut penser à un acte. Des fois, ça peut être indirect. C'est quelque chose qu'on peut avoir sur nous et qu'on ne pense pas forcément. Parce qu'on est peut-être inconscient de ce danger-là.
Vous voulez rajouter,
si, je voulais rajouter, c'est que sur vos réformes là, que les gouvernements font, vous savez comment c'est difficile de bloquer ne serait-ce qu'un site internet sur un moteur de recherche comme Google. Il est inconcevable de pouvoir vérifier toutes les données, toutes les informations qu'il y a sur internet, et de pouvoir les bloquer. Et même si on le fait, même si elles ont un mauvais, il y a un côté éthique qui s'appelle la censure. Car le libre pensée des personnes, plus à cause d'Internet, a permis aussi de se développer. Que je dois admettre, a été vraiment permis parce que maintenant, nous pouvons écouter plus facilement nos concitoyens pour pouvoir avoir des débats sur ce genre d'opinion, mais aussi que l'information est très facile. De ce qui se développe, comme on a vu des vidéos de Daesh qui décapitait des gens, développées sur Facebook ou tout ça.
D'accord. Ah, on m'indique à l'oreillette qu'un internaute nous a fait parvenir un message audio. Je vous propose de l'écouter.
Vous parlez d'évolution et d'innovation, mais on remarque facilement que celles-ci ne sont pas présentes partout. Par exemple, on peut voir que l'innovation technologique n'est pas la même au Sénégal qu'aux États-Unis. Et je pense que cela creuse les inégalités. Les grands deviennent plus grands. Et les petits le reste. De plus, on ne parle pas assez des catastrophes écologiques causées par ces innovations pour trouver de la matière première à tout ce qui est nécessaire pour la fabrication des éléments qui sont acteurs du développement.
Donc, que pensez-vous de cette intervention, monsieur ? Je vous laisse la parole, à vous, monsieur Zer.
Bah, tout d'abord, je suis entièrement d'accord avec ce que l'auditeur nous a dit.
D'accord.
On a bien un croisement entre les pays plus pauvres et plus riches. J'ai eu la chance, moi, de naître en France, dans un pays qui est quand même assez développé, où j'ai pu récupérer, du coup, mon bras. Mais si j'étais né dans un pays comme l'Afrique, ça n'aurait pas été possible. Et je pense que il faudrait que les gouvernements se travaillent ensemble afin, justement, de donner ses chances à chaque personne dans le monde.
D'accord.
Afin que la vie soit plus juste.
Donc vous demandez aux politiques de collaborer pour créer une égalité sur le plan de l'innovation technologique.
C'est ça. Partager un peu plus les ressources plutôt que les garder pour eux.
D'accord. Mais monsieur, vous avez dû savoir que pendant la COP21, il a été dit que les pays les plus bas allaient recevoir des aides. Mais comme on vous dit, le problème c'est que les grands pays ont beaucoup de mal à vouloir donner leur richesse. Leur richesse et surtout à essayer d'innover dans le bon sens. Car en effet, on voit que de plus en plus, l'innovation, bah, c'est à soi-même. Comme on voit avec les brevets, où on bloque l'innovation pour certaines entreprises parce qu'on a déposé le brevet avant, qui bloque tout simplement l'évolution en bonne et due forme de l'espèce humaine.
Et dans quel but ces personnes veulent bloquer l'évolution ?
Bah, en cas de richesse, car on voit que de plus en plus, l'innovation, bah, ça coûte de l'argent, qu'on voit que les brevets, quand on a le monopole sur un brevet ou sur ceci, permettent de pouvoir donner une taxe, une demande pour qu'on puisse permettre de...
Justement, monsieur, vous êtes politicien. Serait-ce pas plutôt à vous d'agir sur ce phénomène plutôt que demander aux autres de régler ce problème? C'est votre rôle
nous,
de
en
parler,
France, on est l'un des pays les plus évolués en matière d'innovation et en droits sociaux, monsieur. Ce qui nous permet de pouvoir... Votre bras, vous l'avez eu des aides pour pouvoir l'avoir. Ce qui permet... Nous sommes un pays, sauf que certains pays ont beaucoup de mal. Et c'est pas en essayant de faire à ma petite échelle que je vais pouvoir changer les choses.
D'accord.
Vous êtes quand même à une échelle plus haute que la mienne, vous êtes politicien. ma voix ne sera pas entendue autant que la vôtre. Vous avez un nom dans le monde, le mien, il ne représente rien parmi tant d'autres.
Oui, je vois.
D'accord. Pour rebondir sur ceci, savez-vous que la pollution numérique émet autant de gaz à effet de serre que l'aviation civile et que si 50 000 internautes effaçaient 1000 emails de 1 mégaoctet, 300 tonnes de CO2 sont évitées. Donc, pour revenir sur le plan environnemental que vous avez évoqué tout à l'heure, monsieur Hadeux, que pensez-vous de ces chiffres? Y a-t-il des conseils, des précautions à donner et à prendre pour éviter ces effets néfastes de ces innovations?
Déjà, si Internet était un pays, il serait classé dans le top 5 des plus gros consommateurs mondiaux d'électricité. Le problème, c'est les big data, le fait de pouvoir toujours stocker des données, mais du coup, on stocke, et ces innovations, ces fours, c'est des fours à l'extérieur, faut qu'on les refroidisse, parce que c'était toujours des ordinateurs qui ont toujours du stockage, et il faut les refroidir. Il y a des millions de données qui sont collectées, et des fois, sur votre mail, des fois, vous pouvez avoir 200 ou 300 mails dedans, et c'est facile d'aller vouloir les rechercher, mais on n'arrive pas à savoir. En tout cas, des personnes lambda, comme peut-être Monsieur Zer, ici présent, ne sait pas forcément que peut-être les 200 mails qu'il a encore dans sa boîte mail consomment énormément d'électricité.
D'accord.
Permettez-moi de rebondir dessus.
Allez-y, monsieur.
Moi, je pense que ces big data sont vraiment très importants de nos jours parce que la société, elle a évolué avec. Permettez-moi de vous poser une question comme ça. Est-ce que vous seriez capable de vivre une journée sans votre smartphone, sans électricité?
Pour vraiment se libérer l'esprit, oui. Parce qu'on est toujours dans l'esprit, notre cerveau, il est toujours sollicité, que ce soit par les pubs, les images, Internet, la musique, etc. Vraiment, juste pour souffler, c'est quand même bon. Il y en a beaucoup qui partent dans les campagnes, qui font un break, qui voyagent sans leur téléphone, juste pour se couper du monde, histoire de une semaine, parce que vraiment, il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui qu'on en a trop dans notre tête.
Et dans le cadre de votre travail, pouvez-vous me dire si sans cette électricité, vous auriez pu avancer dans votre entreprise?
L'électricité, forcément, ça sert à tout le monde. Mais après, le problème, c'est la création de l'électricité. La création de l'électricité, ça peut se faire par deux moyens. Soit, comme en France, les centrales nucléaires, ou sinon, grâce avec les énergies renouvelables. Enfin, avec la création, par exemple, d'éoliennes ou de centrales hydrauliques.
Priorité au direct, nous avons un tweet intéressant qui vient d'être publié sur notre hashtag, je vous propose de le lire tout de suite. Donc monsieur Joris 9DI qui nous dit « Les innovations nous permettent un meilleur confort de vie, mais le prix de celles-ci sont souvent très élevés. Ne serait-ce pas une forme de discrimination? Comment peut-on tous en profiter, la rendre plus accessible ?» Donc je m'adresse à monsieur Zer qui est un usager de la vie de tous les jours. Pensez-vous que pensez-vous des prix de ces innovations qui sont affichées, qui sont proposées?
C'est vrai que les nouvelles innovations sont extrêmement chères. On peut prendre par exemple le dernier iPhone qui coûte plus de 1000 euros. Je trouve que le téléphone devrait être une ressource plus accessible, qui soit vraiment que n'importe qui puisse se l'offrir. Parce que communiquer, c'est quelque chose d'essentiel. Et je pense que ça devrait être le cas pour toutes les innovations, comme pour la santé.
D'accord.
Un bras comme je possède, ça vaut plus que ce que n'importe qui peut gagner en une seule vie.
D'accord.
On peut communiquer sans avoir besoin de dépenser et d'acheter un iPhone 10. Vous pouvez acheter un téléphone qui coûte 20 euros, qui permet de communiquer tout pareil. Il y en a qui font aussi téléphones qui peuvent aller sur Internet pour même pas 100 euros. On n'est pas forcément obligé de payer autant, surtout que je ne suis pas sûr que vous utilisez tout le potentiel de votre téléphone et que surtout vous en avez besoin. Aller sur les réseaux sociaux, etc., vous pouvez par exemple le faire sur votre ordinateur.
Et c'est pour ça que je trouve que justement un prix aussi élevé est injustifié.
Et surtout, je vais rajouter aussi, qui est aussi sur les téléphones, parce que les téléphones, souvent on dit qu'ils se jettent au bout de 2 ans, il existe une petite entreprise anglaise qui s'appelle Fairphone, qui a inventé un téléphone qui permet de se recycler, car en effet chaque pièce peut être plus facilement démontée, très facilement. Si vous voulez savoir, j'en ai vu un pendant on m'a montré un et qu'il avait changé la vitre en à peine 15 secondes. C'est extrêmement facile, toutes les pièces sont recyclables, et ce qui permet au téléphone de durer à un minimum de 10 ans.
Mais est-ce que ce téléphone n'est pas plus cher à l'achat qu'un téléphone lambda ?
Eh ben non, car en effet, le plus basique, le téléphone qui sert juste à communiquer, un smartphone classique, coûte environ entre 200 et 300 euros. Bon, c'est quand même une somme pour nos concitoyens, mais si on voit par rapport à un iPhone qui va coûter 500 euros et qui va durer que seulement 2 ans, par rapport à un smartphone qui va durer 10 ans, c'est plus rentable. Et surtout, en plus, on peut le personnaliser selon qu'on veut pour pouvoir avoir économisé selon ses besoins.
D'accord, monsieur. D'accord, merci.
Excusez-moi, permettez-moi de vous demander, est-ce que vous ne
pensez
pas que...
Très brièvement, s'il vous plaît, car le temps nous est compté.
Est-ce que vous ne pensez pas que ce téléphone est justement phénomène de l'innovation ?
Peut-être.
Par exemple, les subventions données par l'État qui sont environ de 700 millions d'euros cette année, on permet de justement développer ces téléphones qui seraient plus accessibles à tout le monde.
Mais je ne dis pas que toutes les innovations sont mauvaises.
C'est un bon côté de l'innovation.
Bah bien sûr. Comme je vois son bras qui est totalement incroyable. Mais le problème, c'est que ces innovations ont des problèmes. C'est que pour l'instant, seulement quand on regarde les chiffres, j'ai des chiffres sur les brevets faits, il y en a seulement 0,42% de brevets faits pour l'écologie. Et les brevets verts, c'est très peu, même si un Fairphone, mais c'est juste une petite goutte dans un lac.
D'accord, merci monsieur, nous devons rendre antenne. Merci à vous de nous avoir éclairci le sujet et merci à nos auditeurs d'être restés pour se faire leur propre opinion. La semaine prochaine dans Technoblabla, nous parlerons du nouvel iPhone XZ, de ses fonctionnalités, ses qualités, ses défauts et aussi son prix qui atteint des sommets. Merci à tous, à la semaine prochaine,
merci
même jour, même heure.
Au revoir. Au revoir. Tellement stressé que j'entendais des boutures dans les oreilles.